Amen. Bonjour tout le monde. Alors, c'est sympa de pouvoir se retrouver comme ça un lundi matin. Hein. Normalement, on serait au boulot. Eh bien non, pas cette fois-ci. Alors, ne vous habituez pas trop, hein, parce que les week-ends de 3 jours, c'est assez rare. En tout cas, bienvenue à ceux qui sont là pour la première fois. Je n'oublie jamais ce que j'ai vécu, moi, la première fois que je suis rentré dans une réunion comme ça. Moi qui avais grandi à la traditionnelle, que je connaissais les cérémonies, mais je ne connaissais pas les célébrations. Et quand je suis rentré là-dedans, j'étais complètement dépaysé. Je cherchais des vitraux, il n'y en avait pas. Je me demandais si celui qui officiait devait pas avoir une tenue particulière. Eh bien, il n'y avait pas. Et donc, mon seul repère, c'était qu'est-ce que je ressentais au milieu de ces gens-là. Vous voyez? Et finalement, c'est ça ce qui m'a convaincu. J'avais pas beaucoup d'autres choses pour me convaincre, mais la chose essentielle, elle était là. Et aujourd'hui, vous allez peut-être pas vous rappeler de tout ce que vous avez entendu, vu, chanté, etc. Mais je crois que vous allez vous rappeler de ce que vous avez ressenti. Et ça, c'est important. On dit, il faut pas trop se baser sur le ressenti, mais quand même, on n'est pas des automates. On est des êtres humains et ressentir des choses, c'est vraiment important. Tu vois, quand quelqu'un me dit je ne le sens pas, je dis tu sens quoi? Ben, je ne le sens pas. Alors, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, ça, mais quand on le sent, eh bien, il y a une bonne odeur. Il y a une bonne odeur. Et s'il y a une chose que je souhaite pour nos rencontres, c'est qu'il y a la bonne odeur de Jésus au milieu de nous. Voilà, donc effectivement, je viens de très loin avec Denise. On habite l'Australie maintenant, après avoir vécu 21 ans en France, 8 ans et demi à l'île de la Réunion. Donc la francophonie, toute notre vie active, on a vécu là. Je suis australien, mais si je parle français, c'est parce que je suis né dans une famille française dans la ville de Sydney, en Australie, connue pour son opéra, n'est-ce pas, et son pont. C'était notre ville, Denise est là aussi. Et donc, on est retourné en 2020 pour retrouver un peu nos racines. Et depuis, eh bien, vous n'arrêtez pas de me voir, parce qu'on est des visiteurs assez fréquents ici. Je viens d'une famille de Roubaix. Mes parents sont, mon père surtout, était de Roubaix et donc a fait sa scolarité à Reims. A toute une histoire. Rue de Lannoy. Aujourd'hui, à 230 rue de Lannoy, il y a une blanchisserie. Mais pendant de longues années, il y avait une épicerie qui était tenue par ma grand-mère. Et pendant des années, il y avait une enseigne au-dessus de la porte, Cahet et Esterman. Et ça, c'était notre famille. Donc, pour vous dire que les racines remontent à cette génération-là. Voilà, donc, c'est un plaisir d'être là. Bienvenue surtout à ceux qui nous découvrent. J'espère que ça se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler du Dieu inconnu. Du Dieu inconnu. Nous allons projeter un verset des Actes des Apôtres, du chapitre 17, où l'apôtre Paul se promenait à Athènes en Grèce. Donc il est très loin de son milieu du judaïsme à Jérusalem. Il est à Athènes et il a accroché avec des philosophes dans la rue. Et les philosophes, intéressés par son discours, l'ont invité à venir à ce qu'on appelle l'Aréopage, où c'était le lieu de partage d'idées. Bon, les Grecs, ils étaient très portés sur la philosophie, et ça on le sait. Et donc Paul s'est retrouvé au milieu de tous ces philosophes. Ils ont dit, bon ben raconte-nous ta théorie, ta doctrine, elle nous intéresse, c'est nouveau, on aime avoir les oreilles chatouillées par des choses nouvelles, raconte. Et alors Paul va prêcher un message comme jamais il a prêché. Parce que pour la plupart des occasions qu'il avait eues, il a prêché à un auditoire de juifs. Et alors là, il pouvait citer l'Ancien Testament, les gens comprenaient, il parlait de Moïse, il parlait des prophètes, il parlait de la loi, et les gens pouvaient comprendre, il y avait des points de repère.
Mais il arrive à Athènes et puis il se retrouve devant un public qui ne connaît rien de tout ça. Et alors il va commencer un message qui a été pour moi un véritable modèle, un prototype pour moi, pour apprendre à prêcher à des gens qui ne comprennent pas grand-chose de la Bible. C'est utile ça, hein? Parce que aujourd'hui, on a vraiment une population inculte en ce qui concerne la Bible. Ils ont entendu peut-être une histoire de Noé et l'Arche, Adam et Ève, et puis pour le reste... Et ça veut dire qu'on a besoin de parler d'une façon où les gens vont comprendre. Et un de mes grands défis dans toutes les années que j'ai passées en France, c'est de pouvoir parler français aux Français. Ça vous dit? Si je vous parle en grec, ça n'ira pas du tout. Hein. Si c'est du chinois, alors là, vous allez repartir. Il a raconté quoi, ce monsieur? Et donc ici, l'apôtre Paul va nous aider et il va parler de quelque chose qu'il a trouvé dans la rue, dans les rues d'Athènes. Et c'est l'autel à un Dieu inconnu. On va lire le passage. Merci. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit aux hommes athéniens, « Je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. » Il est respectueux hein, dans ce qu'il dit. « Extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription, un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. » Alors, les Grecs, ils avaient tellement de dieux qu'ils ne voulaient surtout pas en oublier un, pour le fâcher. Donc, ils avaient monté cet autel au cas où il y en avait un autre qui n'était pas content parce qu'on ne l'avait pas nommé. C'était l'autel au Dieu inconnu. Et Paul va se baser sur ça pour leur parler d'avoir la foi dans un Dieu qu'ils ne connaissent pas. C'est quelque chose qu'on retrouve dans Jean chapitre 4, parce que Jésus parle avec une femme qui est samaritaine. Et les Samaritains et les Juifs, ils ne s'entendaient pas, pourtant ils avaient la même base. Ils avaient comme base les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Mais la différence, c'était que les Juifs avaient les prophètes tels que Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, tandis que les Samaritains, ils ne croyaient pas aux prophètes. Ça voulait dire que les Juifs avaient une dimension de révélation que les Samaritains n'avaient pas. Et puis Jésus va leur dire ceci, va dire ceci à cette dame, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. » C'est intéressant de penser qu'on peut adorer un Dieu qu'on ne connaît pas. Alors les Grecs avaient un Dieu inconnu, ils croyaient dans un Dieu inconnu. Les Samaritains, eh bien, adoraient un Dieu qu'ils ne connaissaient pas. Et je me suis posé la question, est-ce que ce serait possible de se voir comme chrétien et croire en un Dieu qu'on ne connaît pas? Est-ce possible de participer à des cérémonies tout en se disant croyant, tout en étant quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu? Selon vous, est-ce possible? Je crois que ce serait possible, personnellement. Je l'étais, moi, croyant en Dieu, assistant à des cérémonies, sans le connaître. Alors l'apôtre Paul, il va parler, il va dire quelque chose qui va faire réfléchir. Il va faire réfléchir surtout ceux qui ont côtoyé Jésus dans son état physique sur terre. Il va leur dire ceci dans 2 Corinthiens 5, 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, ça veut dire ceux qui ont connu Jésus avant sa mort, avant son ascension. Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne connaissons plus de cette manière. Alors, Paul est en train de nous dire qu'il y a deux façons de connaître Christ. Deux façons possibles. Celle selon la chair et celle selon l'esprit. Maintenant, selon la chair, c'est le Jésus des évangiles. C'est le Jésus qu'on trouve sur des tableaux, des Jésus qu'on peut imaginer parce qu'il était dans la chair. Denise, dans son travail avec les enfants, elle utilise beaucoup des images de la Bible. Et elle m'a fait connaître un site où on peut télécharger des images de la Bible gratuitement, ça m'intéresse. Et tout y est, tout y est. Vous avez des images d'Adam et Ève, du moins des représentations, parce que il n'y en a pas beaucoup ici qui l'ont vu. Et puis, jusqu'au chevalier de l'Apocalypse, vous voyez, alors il y a toute la gamme là. Et alors, ce qui m'intéresse, c'était les images de la vie de Jésus. Vous voyez? Et puis alors, bon, c'était sans surprise, c'était Jésus entouré d'enfants, c'était Jésus avec une brebis sur les épaules, c'était Jésus faisant un miracle, Jésus en train d'enseigner la foule, c'était Jésus dans les paraboles, dans sa mort, dans sa résurrection. Donc toutes les images étaient là. Et ce que j'ai trouvé curieux, c'était que, selon le dessinateur, la tête de Jésus changeait. Vous voyez? Et alors, il y en avait un en particulier. Alors, j'avais du mal à me décider s'il ressemblait plutôt à George Clooney ou bien à Tom Cruise, tu vois. Alors, pour dire qu'ils sont toujours vraiment très beaux. Alors, c'était, tu vois, les cheveux un peu longs, pas trop longs, mais un peu longs. C'était les cheveux noirs, c'était une barbe bien taillée. J'avais l'impression d'une pub pour les rasoirs Remington, tu vois. Alors, non, mais c'est vraiment, c'est tellement faux, tu vois. Mais bon, là, on peut imaginer tout ça. Et puis, alors, il y a des dessins pour les enfants, tu vois. Jésus pour les enfants. Bon, c'est presque drôle. Alors, mais ça aide les enfants à imaginer les scènes de la Bible, et pour ça, c'est valable. Mais Paul dit, ne vous attachez pas trop à ces images, parce qu'on ne connaît plus Christ de cette façon. Il l'a été, c'est vrai, mais il n'est plus ça maintenant. On ne le connaît plus de cette façon-là. Le Christ qui revient ne ressemblera pas à George Clooney, les amis. Le Christ qui revient, il a une vision dans le livre de l'Apocalypse, et c'est une image de Jésus glorifié, ressuscité dans la gloire. Les cheveux sont blancs comme la neige, une voix comme de grosses eaux et un visage qui brille comme le soleil. C'est au nom de ce Jésus-là qu'aujourd'hui, nous chrétiens, nous agissons. Le Jésus-Christ ressuscité, glorifié, plus celui qui se promenait le long des chantiers de Palestine. Je vous parle de connaître le Christ ressuscité. Il est différent de celui des évangiles. Est-ce que vous me suivez aujourd'hui? Après la résurrection, il était même méconnaissable de ceux qui avaient passé 3 ans et demi avec eux. Vous vous rendez compte? Avec lui. Ceux qui l'avaient connu ne le connaissaient plus. Ceux qui l'avaient entendu ne reconnaissaient plus sa voix. Il n'était plus le même. Il y avait Marie. Marie, après la résurrection, croyait que c'était le jardinier. Les 2 disciples d'Emmaüs croyaient que c'était juste un autre voyageur. Les 7 disciples, dans leur barque, ils sont retournés à la pêche. Quand ils ont vu cet homme qui était au bord de l'eau, ils croyaient que c'était juste quelqu'un qui se promenait le long du lac. Et dans les 3 cas, ceux qui connaissaient Jésus avaient besoin d'une nouvelle révélation de qui il était. Parce que c'était de vivre avec ce qu'ils avaient connu, eh bien, n'allait pas pouvoir les tenir dans tout ce qu'il y avait encore à vivre. Ils avaient besoin de faire une découverte d'un autre Jésus. D'un Jésus qui n'était pas juste lié à un homme qui allait marcher, dormir, manger comme nous, mourir comme nous, ressusciter comme nous. Donc les choses avaient changé fondamentalement. Et comment alors le Christ ressuscité s'est-il révélé à ses disciples qui ne le reconnaissaient plus maintenant? Dans le cas de Marie, elle portait tellement chagrin de la mort, elle était là à la croix, elle l'a vu, elle a entendu les dernières paroles de Jésus, elle l'a vu soupirer son dernier souffle. Elle avait le cœur déchiré. Elle l'aimait. Et maintenant, eh bien, tous ses rêves étaient brisés. Celui
qui avait délivré, qui avait libéré cette femme, eh bien maintenant, il était mort. Elle venait à la tombe pour parfumer son corps, pour au moins manifester un respect pour son corps. Et quand ils l'ont pu trouver, elle était déboussolée, elle a imaginé qu'on a volé le corps de Jésus, parce qu'il y a des voleurs de cadavres, vous savez. Ou bien elle s'est dit, mais peut-être les Juifs, ça le gênait d'avoir un corps comme ça, il faut l'enlever et puis il faut le dissimuler quelque part. Ou bien ils ont dit, peut-être ses disciples l'ont amené ailleurs et elle était complètement débordée par le chagrin. Et là, elle voit cet homme dans le jardin, et à travers ses larmes, elle dit, où ont-ils placé Jésus? Elle pensait que c'était le jardinier. Et Jésus avait, lui, maintenant ressuscité, avait besoin de se révéler à elle différemment. Et vous savez comment il l'a fait? Il l'a fait en prononçant son nom. Marie. Marie. Et quand elle a entendu son nom, eh bien c'est le fait qu'il a utilisé son nom que tout d'un coup ses yeux se sont ouverts. Elle a reconnu le Jésus qu'elle n'avait pas reconnu, qu'elle pensait être le jardinier. Vous savez, c'est tellement personnel, c'est ça ce que je vais vous faire passer ce matin, que Jésus est quelqu'un qui se révèle d'une façon personnelle. Il va prendre ton nom, et il va le prononcer, et quand tu l'entends, ça va te toucher profondément en toi, parce que tu comprends que ce n'est pas juste un Dieu impersonnel qui balance son amour dans le monde entier, mais qu'il ramène à toi et qu'il utilise ton nom. Alors, je ne vais pas vous demander ce matin si vous avez un tatouage. Mais vous savez, Dieu, lui, il a un tatouage. Eh oui. Vous savez où ça se trouve, son tatouage? Sur la main. Vous me regardez un peu sceptique, là. Ésaïe 49, 15 et 16 nous parle du tatouage de Dieu. Lisons-le. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaitait ou qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. C'est Dieu qui parle à travers le prophète. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Il a gravé ton nom sur sa main. Vous savez, parfois, on a besoin de quelque chose pour nous aider à nous rappeler des noms. Eh bien, Dieu, il a écrit ton nom sur sa main pour qu'il dise... Il s'appelle comment, celui-là? Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Pour qu'il puisse t'adresser une parole personnelle. Moi, je le fais en rentrant d'une réunion dans mes voyages. Je ne mets pas ça sur ma main parce que ma main ne serait pas assez grande. Mais je rentre d'une réunion, je rentre d'une visite, je prends mon ordinateur et je mets le nom de tous les responsables que j'ai rencontrés. Parce que ça va m'aider à me rappeler. Parce que s'il y a une chose qui fait plaisir, c'est quand tu retrouves quelqu'un et tu dis « Salut Jean, tu vas bien ?» La personne fait ça. « Tu te souviens de moi ?» Je dis « Ouais, je me souviens de toi. Oh, » ça fait plaisir, hein, quand quelqu'un se rappelle ton nom. Parce que ton nom, c'est toi. C'est toi. J'ai eu une drôle d'expérience à Madagascar une fois. J'étais avec un pasteur malgache et on se promenait à travers un village et un marché. Quand tout d'un coup, je passe un groupe d'enfants qui jouaient au bord du chemin. Et en passant devant eux, qu'est-ce que j'entends? Vincent. Je suis interpellé. J'entends mon nom. Je me retourne vers les enfants et les enfants me regardent. Ah, c'est bizarre ça. Comment est-ce qu'ils ont connu mon nom? Alors je continue un peu
avec mon ami, et on passe devant encore des enfants, et j'entends « Vincent !» Je me retourne, je dis « Mais comment que ça se fait qu'ils connaissent mon nom ?» Et j'ai dit au pasteur, je dis « Comment que ça se fait qu'ils connaissent mon nom ?» Alors il a commencé à rire, il dit « Ils ne sont pas en train de dire Vincent, ils sont en train de dire Vassa !» Ils avaient dit « Quoi Vassa ?» Il dit « Bah c'est un blanc !» Les enfants, ils étaient fascinés du fait que j'étais blanc. Voilà. Alors, ils ont dit « Vincent », et moi, j'entendais « Vincent », tu vois. Mais ça fait plaisir, quand même. Tous ces enfants qui me connaissent. C'est mon nom. Tu sais, quand j'entends dans la rue « Pierre !» Je ne retourne pas, oui. Non. Jean ! Non. Je continue ma route. « Vincent !» Oui. C'est moi. Voilà. Ah, il est comme ça. Dieu, c'est comme ça, tu vois. Parfois, Dieu va se servir de ton nom, mais d'une façon forte et claire. C'était le cas pour Paul avant qu'il soit converti sur la route de Damas. Et là, tout d'un coup, il voit la lumière, il tombe par terre, et dans la poussière, il entend une voix, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Oh, il connaît mon nom. Fort. Et Marie, dans le jardin, ce n'était pas fort, ce n'était pas l'éclair, c'était le murmure. Marie. Pour Samuel, le prophète, quand il était tout jeune, qui ne connaissait pas la voix de Dieu. La voix est venue dans la nuit. Samuel s'est réveillé. Oui, pensait que c'était le vieux sacrificateur. Il est allé voir. Oui, tu veux me voir? Non, je ne t'ai pas appelé. Ah bon? Il est retourné au lit, et puis le lendemain, dans la nuit, il entend encore une fois Samuel. Il se lève, oui, il retourne vers le sacrificateur. Tu m'appelles? Non, je ne t'ai pas appelé. Il retourne se coucher 4 fois. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin d'interpeller. Et enfin, le sacrificateur, qui n'avait pas compris grand-chose, tout d'un coup, c'est peut-être Dieu. C'est peut-être Dieu. Et ça, c'était l'appel de Samuel qui est devenu un des grands prophètes de l'Ancien Testament. Oui. Marie, elle a ouvert les yeux quand Jésus a prononcé son nom. Dans un monde où personne ne veut connaître ton nom. Ce que vous avez remarqué, moi j'ai remarqué ça en France. Les gens ne veulent pas savoir ton nom, ils veulent savoir ton rang, ils veulent savoir ton titre. Pour voir s'ils vont te respecter ou bien pas. Un jour, on était logés dans un lycée à l'île de La Réunion. Et on était dans une maison, dans un appartement de fonction. Et dans ce même lotissement, il y avait le directeur de l'école. Et j'ai fait connaissance avec lui. Et j'ai dit moi, bêtement, comme un Australien, tu vois. J'ai dit, bonjour, je m'appelle Vincent, je viens d'Australie, vous voyez. Et lui dit, je suis monsieur le proviseur. Ouh. Ouais, puis monsieur le proviseur, il a un nom, quoi. Non, mais Dieu, vous dit, je suis docteur. Non. Mais je suis professeur. Non. Tu t'appelles comment, toi? Parce que c'est toi que je veux, pas ton titre. Voilà comment Dieu est. Dans un monde où on veut nous cacher dans l'anonymat, eh bien, Dieu se révèle à nous personnellement. Dans le cas des deux disciples d'Emmaüs, les deux disciples d'Emmaüs étaient aussi dépressifs et c'est une des raisons pour laquelle ils n'ont pas reconnu Jésus, comme pour Marie, c'était son chagrin. Ils étaient dépressifs et découragés parce qu'ils ont fait partie de l'équipe gagnante et l'équipe gagnante a échoué. Tout s'est écroulé, tout leur rêve, toute leur victoire a disparu le jour de la mort de Jésus. Il n'y avait plus de foule, sauf que celle qui disait « crucifie-le ». Et maintenant, les disciples, déboussolés, ils n'avaient plus d'espoir, ils se demandaient ce qui allait se passer, ils se promenaient le long de la route d'Emmaüs, quand tout d'un coup, cet autre voyageur apparaît, et il dit « mais pourquoi vous êtes comme ça ?» Il dit « mais tu n'as pas eu la nouvelle, tu ne sais pas ce qui se passe à Jérusalem ces derniers temps ? Il m'a dit, non, vous parlez de quoi ? Alors, ils ont raconté. Et Jésus a commencé à leur parler des prophéties de l'Ancien Testament le concernant, comment ils devraient souffrir, comment ils devaient mourir. Et là, ils étaient scotchés. Et quand Jésus parlait, ça touchait leur cœur. Ils ont dit après, mais nos cœurs brûlaient en l'écoutant. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils le comprenaient. Vous savez, parfois, on veut donner des études bibliques aux gens, c'est bien, mais on peut avoir des études bibliques, même données par Jésus, sans le connaître. Ils arrivent à Emmaüs. Il fait semblant, Jésus, de continuer son chemin. Et puis les deux, ils disent, ben, reste avec nous, mange au moins un repas avec nous. Et alors, c'est à table que les yeux s'ouvrent. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Jésus est souvent à table dans le Nouveau Testament. Hein? Vous avez vu? Il mange avec tout le monde. Il mange avec ses amis, il mange avec ses disciples, il mange avec les gens de mauvaise vie, il mange même avec les pharisiens. Il mange avec tout le monde. Oh, il faisait le régime le soir, tu vois, quand il montait dans la montagne pour prier. Ouais. Mais il a attendu le repas. Pourquoi? Parce que c'était au moment du repas que les yeux sont ouverts. Les amis, les repas, c'est important. En fait, je vous dirais que nous, en Australie maintenant, notre façon d'aborder les gens et d'évangéliser, c'est toujours autour d'un repas. On n'invite les gens pas à une réunion, on invite les gens à un repas où il y a un moment de partage pendant ce repas. Pourquoi ? Parce que quand on mange avec les gens, on parle. Quand on parle, le cœur s'ouvre. Et quand le cœur s'ouvre, l'amour peut commencer à passer dans les deux sens. Vous voyez ? Et beaucoup de choses se passent quand on est à table. On ne se rend même pas compte. À la réunion, tous les jeudis soirs, on faisait une étude biblique suivie d'un repas. On ne faisait pas une seule réunion sans suivre d'un repas. Libre à ceux de vouloir rester ou pas rester. Et voilà qu'une fois, il y a une jeune femme qui commençait à fréquenter notre étude biblique du jeudi soir, et puis elle arrive avec son mec. Alors, c'était sa première fois. Elle était plutôt accrochée, elle aimait Jésus, elle avait vraiment une foi vivante, mais lui, pas du tout. Hein. Marseillais, d'origine, le petit banditisme, il arrive, et pendant que j'enseigne la parole de Dieu, je vois le gars, il est vraiment pas dans le coup, hein, il fait. Un coup par là, croise les jambes, décroise les jambes, les remet comme ça. Franchement, c'était un peu laborieux pour lui, hein. Moi, en le voyant, moi, je dis, ben, celui-là, il n'est pas du tout réceptif. Hein. Mais vraiment, franchement, il est dur d'oreille. Hein. Mais on avait le repas. Alors, je lui dis, s'il reste, je le mets à côté de moi et je verrai. Alors, ils sont restés. Et alors, je l'ai mis à côté de moi. Il s'appelait Sidney. Et j'ai dit, alors, Sidney, raconte-moi un peu, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Et puis, il a commencé à parler. Et j'ai dit, est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu penses qu'il y a une bonne façon de vivre sa vie? Et puis, on a commencé à parler. Et en parlant, je découvre un homme d'une richesse, d'une profondeur. J'en revenais pas. C'était pas du tout l'homme que je voyais dans la réunion. J'ai dit, mais pourquoi t'étais tellement pas dans le coup dans la réunion? Et il me dit, je viens de descendre d'un avion de Marseille, j'ai pas dormi. J'ai envie qu'une seule chose, c'est d'aller me coucher. J'ai compris. J'ai chopé la fille. J'ai dit, avec lui, tu ne te tromperas pas. Tu ne te tromperas pas. Ils se sont mariés, des enfants. Le dimanche suivant, Sidney arrive à notre culte. En belle chemise, il venait de s'acheter une chemise pour la mettre le dimanche. Ah, là, il est en train de me communiquer un message, là. Hein. Eh bien, ce jour-là, il a donné sa vie à Jésus. Et il est toujours là, dans l'assemblée. C'est lui qui prend toutes les belles photos. C'est un homme de grand cœur qui est devenu un ambulancier.
Mais je me serais complètement trompé si je m'étais fixé sur ce que j'ai vu en premier lieu. Mais c'était au moment du repas que tout d'un coup, mes yeux se sont ouverts et son cœur s'est ouvert.
Ah, les repas! Les yeux s'ouvrent au repas.
Alors, je vous encourage, mangez.
Et il nous reste les sept marins, pêcheurs, rétrogrades, les ex-apôtres qui ont décidé de retourner là d'où ils sont venus. Jésus les avait appelés de leur filet, de leur barque de pêche pour le suivre et ils l'ont suivi. Ils ont vécu une belle aventure, mais découragés de la mort de Jésus, eh bien, ils sont retournés à la pêche. Pour eux, c'était rétrograde. Pour moi, quand je vais à la pêche, je ne suis pas rétrograde. J'aime attraper des poissons. Mais là, ils sont là en train de pêcher, ils n'attrapent rien. Ils sont professionnels, ils ont tout le matériel. Ils ont passé toute la nuit. La nuit, c'est le meilleur moment d'aller à la pêche. Ils ont fait tout ce qu'il fallait faire, ils n'ont rien pris, ils n'ont rien pris. Et là, ils sont dans la barque en train de se rapprocher du bord et il y a un homme qui est là sur le bord et il dit « Vous avez attrapé des poissons, vous ?»
Ça, c'est vraiment enfoncer du sel dans la plaie. Hein, ça, c'est,
vous avez attrapé du poisson, vous ?»
Jésus dit ben, « Il a dit non, non, on n'a rien pris. Non, non, non. »
Alors, il a dit « Écoutez, retournez au large et jetez du côté droit. » Maintenant, quand vous êtes dans une barque au milieu de l'eau, il n'y a pas de côté droit. Mais ils ont fait ce que Jésus a dit. Ils sont retournés au large et ils ont pris les filets, ils se sont jetés côté droit. Et les filets se sont remplis de poissons, 153, il nous a dit. Qui les a comptés? 153. Et c'est là où Pierre... Ses yeux se sont ouverts. C'est Jésus au bord. Oh, c'est Jésus. Pourquoi est-ce que Jésus a utilisé la pêche miraculeuse pour réveiller Pierre et se révéler à lui? Parce que quand Jésus avait appelé Pierre à le suivre tout au début, il l'a appelé avec une pêche miraculeuse. Et pour le ramener à lui, pour le ramener à découvrir Christ différemment, il l'a ramené à la pêche miraculeuse du début. Et quand Pierre a vu ça, il a plongé, il a commencé à nager. Il voulait rejoindre Jésus. Il ne pouvait pas attendre que les filets soient ramenés, que les poissons rentrent dans la barque et que les gens, les autres, décident de se rapprocher. Il fallait absolument qu'ils rejoignent Jésus sur le bord. Mes amis, je crois qu'aujourd'hui, Jésus veut se révéler par sa puissance. Je crois que le Dieu de la pêche miraculeuse est toujours celui que nous adorons, est toujours celui qui est là au milieu de nous et il veut attirer notre attention. Il veut se révéler par les choses surnaturelles qu'il est capable de faire. Je crois aux miracles, chers amis. Je crois aux guérisons. Je crois qu'il y a une dimension qui nous échappe totalement et c'est ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un. Et aujourd'hui, eh bien, il s'est révélé, le Christ ressuscité s'est révélé à ces sept pêcheurs rétrogrades par un miracle. Et ensuite, il a envoyé ses apôtres pour justement produire en son nom des miracles, en son nom. Et les signes ont suivi la prédication de leur parole, la parole. L'Évangile. Et aujourd'hui, eh bien, j'y crois. J'y crois parce que j'en ai vu. Je ne suis pas un faiseur de miracles. Je suis un prieur pour des miracles. Et aujourd'hui, si vous en avez besoin d'un, je ne peux pas vous le sortir, mais je peux prier pour. Et puis là, après, ça devient intéressant.
Alors, je vais demander à Sandy si tu peux venir, Sandy. Sandy, tu as des beaux cheveux. J'aime la couleur bleue, moi. Un jour, je vais peut-être te suivre. Oui. Oui. Je crois qu'on arrive au moment le plus important de la matinée. Parce que arrive un moment où il faut vraiment se décider ce qu'on veut dans la vie. Tout est fait dans notre vie moderne, tordue, pour nous rendre presque comme des bêtes, presque comme des gens qui ne comprennent rien de ce qui va au-delà du matériel. Et Dieu nous donne une chance où il essaie de nous interpeller. Il va utiliser notre nom. Il va utiliser un événement, il va utiliser une personne, il va utiliser quelque chose qui t'arrive dans la nuit, il va utiliser quelque chose pour t'interpeller, pour dire « je suis là et je te cherche ». Je crois qu'aujourd'hui est un rendez-vous divin pour certains. Je le crois vraiment. Vous savez, pour chaque personne qui rencontre Jésus un jour J, c'est comme la naissance. Si je vous dis, c'est quoi votre anniversaire, date d'anniversaire, vous allez me le dire, tel jour, je suis né. Mais dans les années à venir, je vais pouvoir aussi vous dire, alors, vous êtes né de nouveau, quel jour? Et vous allez pouvoir me dire, le 1er avril 2024. Et ce n'est pas un poisson d'avril. C'est vrai. Mais ça vous appartient. Moi, j'ai fait mon choix. Et j'aimerais, si c'était possible, j'aimerais rentrer dans votre peau pour vous aider à faire votre choix, mais je ne peux pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai passé ma vie à accompagner des hommes, des femmes, des jeunes de tous milieux. J'étais comme un accompagnateur, comme un ami qui dit, écoute, je ne peux pas le faire pour toi, mais je peux t'accompagner dans cette démarche. Et aujourd'hui, eh bien, j'aimerais vous offrir cette possibilité de dire, eh bien, jusqu'à présent, j'ai vécu un peu dans le brouillard, j'ai vécu un peu avec ce Dieu inconnu, j'ai plus ou moins cru qu'il y avait peut-être un Dieu là. Mais aujourd'hui, je veux plus que ça, je ne veux pas juste des images du catéchisme. Aujourd'hui, je veux connaître ce Christ ressuscité, ce Christ glorifié, ce Christ qui ne permet pas qu'on le voie de nos yeux, mais qui est palpable, qu'on peut ressentir sa puissance, on peut ressentir sa paix dans nos cœurs. On peut recevoir son amour qui fait qu'on est transformé et qu'on a de l'amour à donner aux autres. Mais pour cela, vous avez besoin de faire un choix. Les premiers disciples, les premiers chrétiens, ils n'ont rien hérité de leurs parents. Ils n'ont rien hérité de leur société. Chacun a dû faire un choix au contact des chrétiens, au contact de Jésus lui-même. L'appel de l'Évangile se résume en un mot. Viens. Viens. Et c'est le mot que j'aimerais t'offrir aujourd'hui. Viens. Viens à Jésus. Donne-lui ton cœur. Donne-lui ta vie. Donne-lui ta main. Laisse-le conduire sur son chemin, pas sur le tien.